au café de la mort.
Ne chantez pas la mort, c'est un sujet morbide. Le mot seul jette un froid aussitôt qu'il est dit.
Avec Christian Hervault et Jean-Paul Souzède.
La mort. La mort.
Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices qui nous écoutez au sujet de la mort. Et si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas trop peur et que vous avez quand même suffisamment confiance en Jean-Paul Souzède, à qui je dis bonjour.
Bonjour.
Mon fidèle compagnon d'émission. Et moi-même, Christian Hervault, pour vous accompagner dans cette investigation autour de la mort. Et aujourd'hui, nous avons pensé que nous allons essayer d'avoir une vision assez large de qu'est-ce que votre croyance de l'après-mort. Alors, vous n'êtes pas avec nous, mais nous sommes déjà deux. Donc, nous allons dire plusieurs choses à ce sujet. Et puis, peut-être qu'une prochaine fois, nous aurons un interlocuteur, peut-être. Ou peut-être que nous aurons d'autres avis, reçu d'autres avis. Et ça donnera l'occasion d'élargir encore nos propos. Alors, Jean-Paul Souzède. On va commencer par la Bible.
Enfin, pourquoi pas?
vous avez eu envie de piocher déjà dans la Bible, dans votre Bible. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit? On en parle à plusieurs registres, évidemment, hein, dans plusieurs registres, mais on va essayer d'en donner quelques-uns pour que vous soyez à même de vous faire votre propre opinion et peut-être de nous retourner vos avis un jour ou l'autre. Alors, allons-y, Jean-Paul Souzède. Qu'est-ce que vous nous proposez d'abord d'aller voir dans la Bible?
Ce qui est intéressant, je trouve, que c'est de se rappeler que la Bible n'a pas qu'une seule vision, qu'un seul discours, qu'une seule croyance. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a 4 évangiles. Je trouve ça toujours très intéressant que nous ayons un corpus biblique, que ce soit dans l'Ancien Testament pour la culture juive ou dans le Nouveau Testament pour la culture judéo-chrétienne, qui est pluriel. Voilà, c'est un corpus qui est pluriel. Il y a plusieurs avis, il y a plusieurs perceptions, il y a plusieurs récits de la vie de Jésus, il y a plusieurs croyances autour de l'après-mort, y compris dans la Bible. Donc on a beaucoup développé l'idée de la résurrection du corps, de la résurrection de la chair, mais il n'y a pas que ça. Et je trouve que c'est intéressant de regarder que déjà il y a une première vision qui est celle de la Genèse. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière, qui est une vision assez nihiliste finalement de dire, ben voilà, la vie se termine avec la fin de la respiration, la fin du corps. Tu n'es que poussière, tu n'es qu'un amas de terre et tu retournes à la terre. Et pourquoi pas? C'est une vision, c'est une croyance qui est partagée par beaucoup de nos contemporains. Il y a une autre croyance qui est très développée dans la Bible aussi, qui est celle d'une sorte de métapsychose qui a été développée par le mouvement des pharisiens, donc un mouvement juif, et qu'on retrouve aussi dans le Nouveau Testament où beaucoup de gens disent de Jésus mais tu es peut-être Élie, hein, ou tu es peut-être David, ou tu es peut-être quelqu'un d'une figure ancienne qui se serait réincarné finalement dans ce personnage qu'est Jésus. Et des moments où ils nous disent « mais qui dit-on que je suis ?» Et c'est là où certains le prennent pour un autre personnage. Et c'est une croyance qui traverse l'Ancien Testament et le mouvement pharisien, de croire que les gens peuvent, que l'âme finalement va aller réhabiter une autre enveloppe et un autre corps. Et puis il y a une autre... voilà, et ça peut se discuter, bien sûr.
Oui, moi, je ne l'avais pas du tout pris comme ça, ces textes-là. Mais bon, c'est intéressant voilà. ce que vous dites là-dessus, voilà, cette option-là. Donc,
Il y a une troisième vision des choses qui apparaît aussi dans la Bible, qui est la résurrection de la chair. Et on est souvent embarrassé avec cette perception-là, sur laquelle le Paul, avec les premiers chrétiens, est confronté avec ses premiers chrétiens et qui disent, mais enfin, qu'est-ce qui se passe dans l'après-mort? C'est quoi la suite? Et alors, il a cette parole qui est, je trouve, assez étonnante dans la deuxième lettre qu'il écrit à l'église de Corinthe. Voilà, je vous rappelle la bonne nouvelle. C'est que vous êtes sauvés, bien sûr. Je vous ai transmis l'enseignement que j'ai reçu. Le Christ est mort pour nos péchés. Voilà ce qui est encore une vision, une interprétation de la mort du Christ. Il est enterré, il est revenu à la vie. Nous prêchons donc que le Christ est revenu de la mort à la vie. Comment quelques-uns alors peuvent-ils dire que les morts ne reviendront pas à la vie? Si c'est vrai, le Christ n'est pas non plus revenu à la vie. Et si le Christ n'est pas revenu à la vie, nous n'avons rien à prêcher, nous n'avons rien à croire. Et puis après, il se pose la question, il dit, mais comment ça va se passer, quoi? Sous quelle forme? Il demandera à quelqu'un, écrit Paul, comment les morts reviennent-ils à la vie? Quelle sorte de corps auront-ils? Ce qui est souvent une question que nous posent les gens que nous pouvons rencontrer, avec lesquels on peut échanger. Insensé que tu es, dit Paul, quand tu mets une graine en terre, cette graine ne peut donner vie à une plante que si elle meurt. Ce que tu mets en terre est une simple graine, peut-être un grain de blé ou une autre semence, et non le corps de la plante qui va pousser. Dieu accorde à cette graine le corps qu'il veut. Il donne à chaque graine le corps qui lui est propre. Et en fait, Paul, il a cette interprétation assez étonnante de dire, bah oui, on a un corps mortel, finalement, qui va disparaître, mais ce qui n'empêche qu'il y aura un corps ressuscité, un autre corps sous une autre forme, qu'on a appelé l'âme, mais ce n'est pas une notion qui est plutôt grecque, c'est une notion qui est plutôt grecque que juive, qu'on a appelé l'esprit, on ne sait pas très bien, mais il y a quelque chose d'autre qui se transforme, qui se transmute, on pourrait dire, comme la graine qui est plantée en terre devient une plante, et quelque chose qui se transmute, et Paul prend cette image de la graine pour dire à ses paroissiens, finalement, à ses lecteurs, bah oui, quand il est mis en terre, écrit-il encore, c'est un corps matériel, et quand il reviendra à la vie, ce sera un corps animé par l'esprit. Voilà, ça ne nous renseigne pas beaucoup, mais ça nous renseigne sur le fait que Paul avait cette croyance que, oui, tout ne s'arrêtait pas là. Et si on regarde les évangiles encore, je trouve qu'il y a d'autres lectures, d'autres témoignages qui sont intéressants, c'est l'histoire des disciples d'Emmaüs, c'est l'histoire qui croise un homme sur le chemin. Ils parlent avec lui et il leur faut un bout de pas mal d'heures de discussion et qu'ils partagent le pain et le vin pour qu'ils se disent « Ah, mais ce gars-là, ça devait être Jésus ». Comme si, au fond, la manière de continuer à vivre après la mort, ça pouvait être à travers des actes et des actes symboliques comme le partage du pain et l'explication des Écritures. On a cette autre histoire des femmes qui croisent un homme qui sont au tombeau le lendemain de la mort du Christ. Elles sont au tombeau, elles sont un peu affolées parce que le tombeau est vide, il n'y a plus que des bandelettes, donc ils se disent « mais où est passé le corps, c'est incroyable ». Elles descendent du jardin, elles croisent un jardinier, un homme en blanc, on ne sait pas très bien ce que c'est, qui c'est peut-être Jésus là aussi. Et assez étonnamment, elles ne le reconnaissent pas parce qu'elles s'attendaient sans doute... quelqu'un sur un autre visage ou sur une autre apparence.
C'est surtout qu'elle ne l'attendait pas du tout.
Surtout qu'elle ne l'attendait pas du tout, exactement.
Je crois. Donc, et qu'elle surpris de voir quelqu'un et qu'on ne le reconnaisse pas. Ça me semble assez logique humainement quand même.
Voilà, peut-être. Mais en même temps, c'est étonnant que croisant ce personnage qui peut-être était Jésus, elle ne le reconnaisse pas effectivement parce qu'elle ne s'y attendait pas. Donc c'est aussi une autre manière de nous dire ah ben peut-être que Jésus que la résurrection elle se vit à travers des rencontres qui nous surprennent, qui nous étonnent, qui sont de l'ordre de l'inattendu, mais qui sont des belles rencontres où il va y avoir des signes du partage de la profondeur, de la densité dans la relation, et que peut-être c'est là aussi que va se vivre quelque chose de la mémoire, du souvenir, de la réactivation d'une expérience vécue avec la personne qui est décédée. Et puis on pourrait dire qu'il y a encore une dernière image, un dernier message dans le Nouveau Testament autour des croyances sur l'après-mort. C'est intéressant, c'est le tombeau vide. Et peut-être que les évangiles, c'est d'abord ça, c'est dire, on n'est pas là à dire comment se passera l'après-mort, comment nous allons nous ressusciter ou nous réincarner ou revivre autrement. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que la mort n'est pas la fin de toute chose. Le tombeau est vide. Et je crois que ça, c'est pour moi le grand message de l'Évangile. Et c'est pour ça que Paul peut-être donne une image autour de la graine, qui est une manière assez poétique et assez expressive aussi de dire, ben voilà, il y a quelque chose qui nous échappe. On sait ce corps matériel qu'on met en terre, mais on ne sait pas après ce qu'il advient. De cette graine, ça nous échappe. Et peut-être que le message essentiel du Nouveau Testament sur l'après-vie, c'est de dire, ben, on ne sait pas, c'est vide, mais en tous les cas, la mort n'est pas la fin. La mort n'est pas la fin de toute chose.
Oui. Le tombeau vide, ça laisse quand même aucune espérance. Alors j'aimerais donner un texte d'espérance.
Ah ben très bien.
Peut-être que ça donne une autre vision, oui. Aussi. Donc c'est vrai que c'est aussi dans... dans les lettres de Paul. Donc, il y a beaucoup à piocher hein, dans les lettres de Paul. Et il faudrait, c'est vrai, avoir peut-être plus de temps dans notre émission, mais aussi approfondir peut-être certains sujets. Peut-être le ferons-nous, nous verrons. Nous verrons peut-être ce que nous ferons de cette première émission qui parle de l'après-mort, parce qu'il y a tellement à dire et tellement à se questionner, effectivement, hein, parce qu'on est là devant un grand mystère. Donc, voilà. Donc, j'aimerais lire quand même ce texte de 1 Thessaloniciens 4 que j'utilise pour ma part quand je fais des rencontres de services funèbres et notamment au cimetière. Nous ne voulons pas que vous soyez ignorants, frères et sœurs, au sujet des morts. Alors, dans le texte, il y a au sujet des endormis, mais le vrai mot, c'est le mot mort, hein, quand même. Hein. Et c'était vraiment à ce moment-là, Paul était en prise avec justement différentes personnes qui s'inquiétaient au sujet de la résurrection de leurs proches. Que va-t-il en être ? C'était un grand sujet de débat à cette époque, à l'époque de Jésus, hein, entre ceux qui croyaient en la résurrection, d'autres qui n'y croyaient pas, d'autres qui se questionnaient. Et donc, nous ne voulons pas que vous soyez ignorants, frères, au sujet des morts, afin que vous ne soyez pas affligés, comme sont aussi les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous avons confiance que Jésus est mort et s'est relevé, ainsi aussi Dieu conduira les morts par Jésus avec lui. C'est-à-dire qu'il va les accompagner avec lui dans cette traversée de la mort. C'est une de mes convictions. Je ferme la parenthèse. Nous disons en effet que conformément à une parole du Seigneur, que nous les vivons, laissés jusqu'à la parousie du Seigneur, nous ne devancerons certainement pas les morts. Que lui, le Seigneur, au signal, à la voix de l'archange, à la trompette de Dieu, il descendra du ciel et les morts se lèveront en Christ d'abord. Ça, c'était une attente à cette époque-là, parce qu'on pensait que Jésus allait revenir très très vite et que Paul l'attendait. En fait, il aurait bien voulu le retrouver là, vivant, plutôt le trouver, puisqu'il ne l'a pas connu, Paul ne l'a pas connu. Et ensuite, nous les vivants, les laissés ensemble avec eux, nous serons volés dans les nuées pour la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi toujours nous serons avec le Seigneur. De sorte que, exhortez-vous les uns les autres dans cette parole. Et là, pour moi, il y a vraiment une parole d'accompagnement du Christ avec nous, dans notre mort, avec nous dans notre mort, pour traverser la mort. Il ne nous laisse pas seuls, nous sommes avec lui. Et nous allons dans une vie possible, ailleurs, avec lui. C'est-à-dire en complétude avec lui, quand nous serons après la mort. Voilà, donc je dis ça brièvement pour ne pas en rester peut-être au tombeau vide qui dit c'est tout vide, on est poussière, poussière et puis c'est tout, dans le sens en tout cas que ma conviction à moi, ma croyance à moi, c'est que nous serons vivants, nous continuerons à être vivants avec Jésus après, de quelle manière ? Ça, c'est le grand mystère. Et résurrection des corps, j'en suis pas certaine du tout.
Ouais, oui, ça, c'est
une métamorphose, je sais pas. Peut-être, ça n'enlève pas l'idée très belle que vous avez soulevée, Jean-Paul Sauzède, de dire qu'on fait mémoire de quelqu'un, on vit avec lui encore quelque chose avec lui, de ce que cette personne nous a donné. Et c'est une forme de résurrection avec cette personne. Du coup, nous faisons ressusciter cette personne à travers nous d'une certaine manière. Donc, il y a plusieurs, dans ce mot résurrection qui est très vaste, il y a plusieurs aspects à mon avis. Donc, peut-être nous pouvons nous poser des questions sur d'autres façons peut-être de voir ce sujet-là. Et avant d'aborder peut-être d'autres visions, plus moderne ou plus laïque, plus spiritiste, qui existe aussi, qu'il est bon de regarder, parce que ça peut être aussi cette façon-là qui sera pour nos auditeurs et nos auditeurs à prendre en compte. Je vous propose d'écouter une chanson de Michel Delpech qui s'intitule « La fin du chemin ». Nous l'écoutons ensemble et puis nous revenons pour la suite de nos échanges avec Jean-Paul Sauzède.
Voici la fin de mon chemin sur terre. Je suis à toi, accueille-moi, mon Père. Voici mon âme, ses chevaux là, mes frères. Je m'en vais là où brille la lumière. Chère Sarah, ouvre tes bras, j'arrive. Tu penses à moi, prépare-moi. Voici la fin de mon chemin sur terre. Je viens vers toi, accueille-moi, mon Père. Adieu la vie, mais je bénis.
Vous êtes bien sur Radio Alliance Plus, vous nous écoutez en DAB+, ou peut-être sur nos podcasts, pour cette émission Au Café de la Mort, où nous sommes en train de réfléchir ensemble avec Jean-Paul Sauzède, qui, je vous le rappelle, est thérapeute à Nîmes, et qui a été pasteur. Et donc, peut-être, Jean-Paul, je vous tends la perche de nouveau, si vous voulez rajouter quelque chose ou diverger sur quelque chose que j'ai dit. Et puis peut-être après, si nous pouvons commencer à aborder peut-être d'autres visions de cet après-mort.
Oui, oui, moi j'aime bien aussi le texte de Timothée. C'est encore une manière de pouvoir parler de ce dont on ne peut pas parler, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe après la mort. Et ça vient nourrir aussi des croyances que nous pouvons avoir les uns et les autres.
Vous avez parlé d'un texte de Timothée.
Oui, c'était l'été.
De Paul au Thessaloniciens.
L'été Thessaloniciens, pardon.
Celle que vous avez dit. Tout à fait. D'accord. Non, c'était juste pour les auditeurs nous suivent et moi aussi.
Et moi aussi.
Donc, parce qu'il y a certainement d'autres textes. Peut-être.
Oui, non,
il y en a un dans l'Épître aux Timothée aussi.
Non, c'était l'été Thessaloniciens, pardon. Et je trouve que c'est tout à fait pertinent. C'est un autre regard, une autre manière de parler de ce dont on ne peut pas parler, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe et comment ça se passe. Néanmoins, je trouve qu'il nous faut, je pense, aborder aussi une question qui revient dans le symbole des apôtres, qu'on dit souvent dans nos églises et dans nos temples, qui parle de la résurrection de la chair.
Oui, alors ça, c'est pour moi, vraiment, c'est vraiment une très mauvaise traduction. C'est quelque chose qui a mis en porte-à-faux, je trouve, cette notion de résurrection. Voilà, mais bon, je vous laisse poursuivre sur la chair. C'est vraiment un mot épouvantable qui a été tellement mis de travers, compris de travers pour moi. Mais
oui, oui,
allons-y.
Mais en même temps, on le nomme souvent dans nos confessions de foi autour du symbole des apôtres, on le nomme souvent dans des croyances et dans des textes liturgiques que l'on peut dire dans les églises catholiques comme dans les églises protestantes aussi. Et je trouve que c'est important de ne pas éviter cette question-là. Et donc, c'est quelque chose qui nous gêne, parce que quand on est un peu décati et qu'on devient vieux, fatigué, ridé, abîmé, douloureux, on n'a aucune envie de se dire « mais non, la résurrection de la chair, du corps, comme si nous allions ressusciter avec notre viande, avec notre corps charnel ». Comme si nous, et dans l'état actuel, ce qui est insupportable et certainement pas juste et un contresens. Et pourtant, la tradition chrétienne a dit et redit et répété cette croyance-là. Et je trouve que c'est bien d'en donner au moins deux, trois éclairages que peut-être vous pouvez aussi compléter, Christiane, parce que je pense qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Comme ça, brièvement, je pense que c'est important de redire que c'est une manière de dire, ben ce n'est pas seulement que spirituel, ce n'est pas qu'une question d'esprit, de quelque chose d'évanescent, c'est quelque chose qui est incarné. C'est quelque chose de notre âme charnelle, au sens non pas de la matière, mais d'une âme qui a des douleurs, qui a des joies, qui a une identité, qui a une corporéité. Est-ce que l'âme a une corporéité? J'en sais rien. Mais quelque chose qui n'est pas que évanescent. Voilà, je pense que dans le mot charnel, il y a cette croyance-là, en tous les cas. Et puis, c'est peut-être aussi parler de la résurrection de la chair. J'aime bien ce que dit Alain Ouzio, qui est un collègue pasteur aussi, qui disait, au sens où la résurrection, on peut le rappeler dans l'étymologie, c'est le réveil, c'est se remettre debout, c'est se remettre droit, c'est se redresser. On peut se redresser de la mort.
On peut se relever
de la mort. Et c'est se relever de la chair, c'est-à-dire se relever de cette sorte d'emprisonnement, de cantonnement de notre existence qui est contenue dans la chair, qui est limitée, qui est retenue dans la chair. Ben oui, il peut y avoir une sorte de libération de la chair dans cette résurrection où on peut aller dans se relever de toutes ces contingences qui nous tiennent, qui nous contiennent, qui nous retiennent, qui nous détiennent, même au sens d'être détenu comme un détenu en prison. Oui, après la mort, il y a ce mouvement d'ouverture, de libération. Voilà. Et j'aime bien cette notion-là, en tous les cas, cette lecture-là. Voilà. Je trouvais que c'était important dans nos différentes évocations des perceptions de la vie après la vie, de ne pas échapper en tout cas à cette croyance-là, cette phrase liturgique qui revient souvent autour de « oui, nous croyons à la résurrection de la chair ». C'est épouvantable dans sa lecture littérale de se dire « non, c'est pas la résurrection de nos corps tel qu'il est aujourd'hui, c'est quelque chose d'autre qui se passe ». C'est au contraire qu'on peut se relever de cet enfermement du corps. Voilà. Après, il y a plein d'autres notions que je trouve intéressantes à regarder quand on interroge les gens autour de qu'est-ce que vous croyez, qu'est-ce qui vous paraît. Moi, j'aime bien dans les services funèbres, je pose souvent la question, quand j'accompagne les familles, de dire c'est quoi votre croyance? Où est passée cette personne qui maintenant est décédée, qui n'a plus de souffle? Et beaucoup de gens nous disent il est peut-être là juste dans nos souvenirs. Il est peut-être juste là dans les évocations qu'on pourra en avoir. C'est intéressant de voir des gens qui pensent qu'ils vont leur parler. Et on a beaucoup de croyances, et pas que dans les campagnes, qu'il ne faudrait pas d'ailleurs défigurer, ces croyances autour des fantômes, autour de personnes décédées qui peuvent nous parler. C'est toutes les notions autour du spiritisme. Victor Hugo a beaucoup développé ça, mais d'autres encore, y compris aujourd'hui, dans des pratiques où on peut convoquer les morts, les faire parler. C'est tout aussi le travail qui se fait autour de James Moody, La vie après la vie, tout ce mouvement qui date d'il y a 30-40 ans, développé beaucoup par Kubler-Ross, qui était médecin, qui avait travaillé sur les expériences de proches de la mort, où les gens racontent des expériences très semblables, tout en étant dans des milieux culturels extrêmement différents, où ils voient un couloir, beaucoup de lumière, beaucoup de gens qui les accueillent, qui les accompagnent, dont certains qui leur disent « non, c'est pas le moment, retourne dans la vie ». Voilà, donc il y a plein d'expériences tout à fait intéressantes qui viennent nous dire aussi que, la vie ne s'arrête pas au moment de la fin de la vie et que peut-être il y a un au-delà de nous-mêmes, un au-delà de cette vie-là qui aujourd'hui nous échappe.
Il y a certainement d'autres d'autres visions aussi, comme je pense à la réincarnation dont nous n'avons pas parlé, mais peut-être nous pourrons poursuivre la prochaine fois ou revenir sur peut-être quelques aspects pour les développer. Notamment aussi cette vision que je trouve très intéressante du souvenir, de la mémoire, de ce qu'on vit aussi après, et peut-être de l'intervention des morts dans notre vie. Il y a tout cet aspect-là. Peut-être qu'on pourra, nous pourrons en reparler la prochaine fois pour notre prochaine émission, pour développer cette question de la résurrection qui a trait aussi pour moi à notre propre résurrection face à la mort. Voilà, donc il y a une continuité aussi de résurrection en résurrection. Il y a la nôtre aussi dont il s'agit. Donc, je vous invite, chers auditeurs et auditrices, à vous replonger dans les textes bibliques. Alors, nous en avons évoqué que quelques-uns. Je vous proposerai aussi, moi personnellement, d'autres versions que la version en français courant que notre ami Jean-Paul Sauzède vous a lu, de 1 Corinthiens 15, 35 à 44. Je vous redis les versets parce que c'est intéressant d'aller, voilà, et de peut-être d'avoir une réflexion avec d'autres ou dans vos paroisses, si vous faites partie d'une paroisse, ou avec vos amis ou vos proches, d'en faire partie. Et à ce titre-là, je vous invite, c'est peut-être cela, Jean-Paul Sauzède, que vous vouliez me dire en levant le doigt.
Tout à fait, non, c'était juste dire, bah, effectivement, on en reparle aussi au Café Mortel, qui voilà. Est à l'instant T, rue Racine, à Nîmes, le 20 janvier prochain, puis le 17 février, puis le 17 mars.
Voilà, pour parler donc, aussi cas, de ces questions-là. En tout cas, le prochain, c'est le 20 janvier, mardi 20 janvier, 18h30.
18h30, ça, 20h.
Rue Racine, voilà. À l'instant T. Voilà, je n'allais pas oublier, j'allais vers ça aussi.
Parler de la mort, ça ne tue personne, donc parlons-en.
Je vous suggère aussi un livre de Céline Romer et de François Vouga, « Paul face à la résurrection ». Réveillé d'entre les morts, waouh, hein, voilà, on y va peut-être. Et pour ceux qui ont envie de piocher d'une manière un peu plus théologique, hein, bien sûr, et des podcasts qui ont été faits lors des cours de l'Université populaire des religions l'année dernière, au mois de mars, où justement Céline Romer a parlé aussi dans deux cours de Paul et de ses textes justement, celui que vous avez lu, celui que j'ai lu et d'autres, pour parler de Paul face à la résurrection, notamment où ça a été un sujet important.
Où trouve-t-on les podcasts ?
Les podcasts, vous les trouvez sur radioallianceplus.fr, bien sûr. Vous allez sur notre page d'accueil, vous déroulez, vous trouvez nos créations, nos conférences. Et là, il va falloir aller sur plus de créations, parce qu'ils sont en dessous de ceux qui sont visibles.
Ah oui.
Hein, mais vous les trouverez. Donc, ce sont les cours de l'Université populaire des religions de Céline Romer. Eh bien, il ne
Merci.
Me reste plus qu'à vous remercier, Jean-Paul Sauzède,
Merci.
Pour vos apports sur la résurrection. Et nous allons mijoter là-dessus pendant un mois et nous retrouver le mois prochain avec plaisir. Au revoir, chers auditeurs et auditrices.
Au revoir.
À bientôt.
La mort.